Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va voir comment l'amour qu'elle a pour les sciences au sens large va se transformer en un projet de transmission. On y va pour les détails.
Médien, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Leila Berchane, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remarque Leila.
Ça va très bien, je suis ravie d'être avec toi et merci pour l'invitation.
Eh bien écoute, c'est un plaisir et j'ai vraiment envie de découvrir la jeune femme derrière ce très joli parcours. Alors toi, tu es ingénieure de l'école Mohammedia, YEC ?
Exactement, oui, voilà. Je suis de l'école Mohammedia 2010.
2010, voilà. Donc ça fait 15 ans, 16 ans, on va dire maintenant, on est début 2026, ouais. Donc on peut dire 16 ans presque, 16 ans dans le monde professionnel. Et à travers ces 16 années d'expérience, en fait, tu es aujourd'hui ce qu'on appelle une advocate, c'est-à-dire que tu milites pour la STEAM. Alors, c'est quoi la STEAM ?
Alors, la STEAM, c'est pour dire, en fait, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques et arts. Donc, c'est tout simplement, en fait, les matières scientifiques.
OK. Et arts ?
Ouais.
C'est-à-dire, quel lien avec l'art ?
En fait, parce que l'art aussi, ça peut être lié avec les maths, la physique. Normalement, tous les artistes, en fait, les artistes les plus connus se sont appuyés aussi sur des concepts très très avancés de maths pour faire leurs œuvres.
C'est
pour dire en fait qu'on peut faire fonctionner en fait notre côté droit et gauche du cerveau et qu'on n'est pas obligé d'être soit scientifique, soit artiste, mais qu'on peut toujours mélanger les deux.
Alors, STEAM Advocate, j'ai pas encore fini. Hein. Entrepreneur. Mm-hmm. Oui, tu es dans l'entrepreneuriat aussi ?
Exactement, oui. Je suis entrepreneur depuis 11 ans.
Alors, j'ai vu qu'en fait, quand tu as fini tes études, tu as travaillé en entreprise.
Exactement. Donc j'ai commencé en fait par une carrière en fait en contrôle gestion. Donc j'étais dans la finance, la gestion de projets, etc. Donc dans un groupe minier. Par la suite, j'ai rejoint un groupe panafricain d'assurance. Donc toujours dans le même secteur, donc dans le contrôle gestion stratégique, avant de décider en fait de changer carrément de carrière et de m'orienter vers l'entrepreneuriat.
Ok, donc STEAM Advocate, donc c'est on va dire l'advocacy pour tout ce qui est matière scientifique, mais lié à l'art. L'entrepreneuriat, c'est venu après le salariat. C'était quoi le déclencheur dans la tête de la jeune femme ingénieure que tu étais ? Et on sait combien les ingénieurs en fait sont en général, ils aiment bien les choses carrées, ils aiment bien cette zone de confort en fait. Preneurs de risques.
Ouais, exactement. En fait, à l'école d'ingénieur, on nous apprend exactement comment faire pour aller en fait dans des entreprises et occuper des postes de management et plutôt carré. Mais en fait, après 6 ans dans le salariat, j'ai commencé à me poser la question de quel est mon rôle dans la société et quel est l'impact que j'ai dans la société en tant que salarié. Dans le poste où j'étais, en fait, je ne le voyais pas. Et du coup, je me suis dit, si je n'arrive pas à le faire dans mon poste actuel, je dois peut-être chercher d'autres pistes pour le faire. Et c'est là, en fait, où j'ai trouvé l'idée de l'entreprise qu'on a fondée avec ma sœur. Et l'objectif, en fait, c'était un peu de changer la façon avec laquelle on enseigne les maths, la physique, l'ingénierie de façon générale, pour la rendre plus pratique, plus créative et pour développer aussi les soft skills, parce que finalement en fait après des années d'études on sort de l'école pas très bien équipés en termes de, par exemple, communication, en termes de capacité à résoudre des problèmes complexes, etc. Et c'est que plus tard, en fait, dans le monde de l'entreprise, qu'on apprend à zéro à faire ces choses. Donc c'est d'où en fait le déclic.
Alors, tu as dit, j'ai lancé une structure avec ma sœur pour enseigner les matières scientifiques d'une autre manière. Quel a été le regard de l'entourage de cet ingénieur qui a travaillé dans les plus grands groupes marocains, panafricains, etc. Est-ce que tu n'as pas entendu au chef de mission de Kreou Dreri?
Oui, en fait, la réaction la plus simple, c'était en fait déjà mes parents qui étaient un peu résistants en fait par rapport à l'idée. J'ai entendu des phrases comme mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton diplôme d'ingénieur? Après, je l'ai entendu aussi autour de moi, donc à l'entreprise, parce que c'est à l'époque en fait en 2014, c'était pas du tout. En fait, l'écosystème entrepreneurial venait à peine de commencer, donc c'était pas courant en fait de juste laisser tomber et partir, et surtout dans un secteur où on va jouer, parce que en fait l'idée c'était partie de apprendre par le jeu, qui est une pédagogie très répandue dans les pays nordiques, mais pas au Maroc. Donc au Maroc, on voyait toujours le jeu comme des alouettes en fait. Ouais. c'était pas forcément la bonne chose à annoncer pour décider en fait de tout plaquer et puis partir jouer avec des enfants. Parfois, en fait, il faut oser, il faut croire à ce qu'on veut faire. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, pour nous, c'était vraiment une vision. On a vu en fait le déclic, parce que la première fois que j'étais ingénieur, donc j'ai fait des études d'ingénieur, je faisais de la physique pendant des années. Quand la première fois que j'ai, par exemple, compris le système d'engrenage, c'est quand j'ai pris deux pièces de Lego, je les ai fait tourner ensemble, et là en fait, il y avait un déclic. Je me suis dit, ah, c'est ce qu'on m'essayait expliquer à l'école. Et du coup, je me suis dit, si seulement j'avais compris ça depuis le début, j'aurais peut-être pu inventer des choses, j'aurais pu aller plus loin dans ce que je voulais faire. Et voilà, donc c'est de ça en fait qu'on est parti.
Ok. Alors aujourd'hui, c'est dans l'éducation que tu es. C'est ça. Mais tu as intégré la robotique aussi.
Exactement. En fait, le concept a évolué petit à petit. Donc, on est parti de apprendre par le jeu. Après, on a découvert qu'il y avait tout un écosystème en fait de robotique mondiale, où en fait la robotique sert comme moyen d'apprentissage de. C'est en fait du project-based learning, l'apprentissage par projet, où les enseignants pourraient en fait intégrer des projets, et les élèves, en travaillant sur les projets, ils vont puiser dans les matières dont ils ont besoin pour apprendre les compétences dont ils ont besoin pour s'assurer que l'élève il voit l'utilité de la chose déjà. Et du coup, une fois qu'il l'a appris, l'apprentissage ou le concept qu'il a appris est ancré. Il ne va pas l'oublier. On n'est pas dans une démarche d'apprendre juste passer des examens ou pour avoir de bonnes notes, mais plutôt pour pouvoir bien maîtriser les concepts. Alors, la robotique, justement, c'est un très bon outil parce qu'elle permet à la fois de toucher des compétences techniques. Donc, on peut enseigner pas mal de concepts et physique, maths, etc., codage, programmation. Mais on peut aussi apprendre des choses comme la collaboration, travailler en équipe, être créatif, par exemple, faire le design du robot, faire une présentation, etc.
Alors, Afti, Leïla, l'image que j'ai de toi, en fait, au fur et à mesure que tu me parles de ton parcours et de ces évolutions, c'est comme, en fait, un diamant brut, ok, à la sortie de la formation en ingénierie, donc brillante, etc. Mais on va dire, elle a la formation et l'information de l'ingénieur. Et puis ensuite, au fur et à mesure, tu as taillé tout ce bagage que tu as appris et tout cet amour que tu as pour les matières scientifiques, tu l'as taillé de telle sorte à en faire finalement un projet pour les autres.
Exactement. J'aime bien la similitude. Mais c'est exactement ça, parce que en fait, moi aussi, j'ai appris. C'est un projet en fait qu'on a taillé, comme tu le dis, parce que on avait une idée au départ. Après, au fur et à mesure qu'on avançait, au fur et à mesure qu'on parlait aux enfants, qu'on parlait aux parents, ou qu'on parlait aux enseignants, on essayait d'affiner en fait pour le rendre le plus efficace, le plus efficient possible, et pour que l'éducation soit le plus engageante possible. Mmh. Ouais, j'aime bien cette similitude.
Alors, ouais. Y a aussi autre chose, justement. Par contre, avant de passer à cette autre chose, tous ces changements, en fait, t'ont appris quoi sur toi en tant que femme et en tant qu'individu?
En fait, la première des choses, je dirais, c'était en fait que les blocages c'était dans ma tête, parce que quand je voulais me lancer, en fait, il y avait beaucoup de craintes. Déjà pour sauter le pas, parce que avec avoir un salaire fixe, être confortable, etc. Parfois, t'empêche en fait de prendre d'être le pas en fait de sauter. Et, ouais. Et du coup. Après, en fait, maintenant, avec le recul, je me dis que c'était juste dans ma tête, parce que ça m'a pris un an pour démissionner. Et j'ai fait, en fait, je l'ai fait en parallèle pour ne pas tomber en panne, pour continuer à avoir un revenu. Mais en fait, parfois, on a des blocages internes. Et parfois aussi, par exemple, pour aller voir des clients, le premier client que j'avais, bah, par exemple, je me suis dit, il ne va jamais accepter de travailler avec nous, on est une petite boîte, etc. Et du coup, j'ai retardé le process pour même aller demander. Alors que quand j'ai posé la question, tout de suite, on a pu avoir une réunion, etc. Et du coup, ça m'a appris à juste oser faire des choses. Et à chaque fois, en fait, que je commence à me poser beaucoup de questions, je me dis, c'est moi qui bloque. C'est pas vraiment le contexte, c'est pas vraiment les clients qui manquent, mais c'est moi. Et du coup, ça m'a appris à me challenger moi-même, à prendre plus de perspectives. Et finalement, en fait, j'aime bien en fait une citation en fait en anglais qui dit whether you think you can or you think you can't, you are right. Donc c'est finalement en fait ce qui marche, c'est comment est-ce que nous on parle à nous-mêmes.
C'est ça. C'est en fait c'est ce message intérieur, ce discours intérieur qui va déterminer si on va réussir ou pas. C'est ce qu'on croit. On peut croire qu'on va réussir, on va réussir. On peut croire qu'on ne va pas réussir, on ne va pas réussir, dépendamment de ce qu'on se dit, en fait. Alors, sur ta bio sur LinkedIn, on lit aussi « Obama Leader 2024 ». Ça veut dire quoi?
Alors, en fait, l'année dernière, j'ai été sélectionnée pour rejoindre le réseau d'Obama.
L'année d'avant, donc, en fait, 2024.
L'année d'avant, oui, exact. Je suis toujours le réseau de 2025, même si on est en février. Donc, l'année d'avant, j'ai été sélectionnée pour rejoindre le réseau Obama. Donc, c'est un réseau de leaders, en fait, où l'ancien président Barack Obama avait décidé de créer en fait un réseau. Il a commencé par l'Afrique, après il a agrandi dans les autres régions pour pouvoir identifier les personnes qui façonnent en fait la société civile dans les différentes régions. C'est un réseau qui me permet de me connecter avec des leaders dans différents pays africains. D'ailleurs, ma sœur aussi a été sélectionnée dans le même réseau. Et l'idée, c'est de créer en fait des synergies entre différentes organisations qui œuvrent toutes à le monde meilleur.
Ok, d'accord. Alors, ça, à côté justement du premier projet, avec ta sœur, vous avez toutes les deux monté un deuxième projet.
Exactement. En fait, on a donc peu après en fait l'entreprise ou la start-up. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes en fait du côté des enseignants de l'école publique. Et du coup, on a monté une association. On a cherché des passionnés comme nous dans du monde de la tech. Et puis, on a monté une association, Loop for Science and Technology. L'objectif, c'était de vulgariser ce qu'on fait et puis de le rendre accessible pour des jeunes des milieux défavorisés. Donc l'idée c'était vraiment de faire en fait en sorte à inclure toute personne qui souhaite poursuivre en fait des études scientifiques mais qui n'ont pas les moyens. Et du coup, on a fait un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale juste après Covid et suite auquel on a fait des caravanes de formation dans toutes les régions du Maroc. On a formé des enseignants. Puis on a commencé à soutenir en fait ces enseignants en leur fournissant du matériel de robotique pour qu'ils puissent démarrer des clubs dans leurs établissements scolaires, former des équipes de robotique et puis participer aux compétitions de robotique qu'on organise. Voilà, donc ça nous a permis d'atteindre à peu près 200 clubs de robotique partout au Maroc. On voit en fait déjà les résultats parce qu'on voit beaucoup de jeunes et surtout on fait beaucoup attention à la parité parce qu'on demande aux enseignants de former des clubs avec au moins 50% de filles pour nous assurer en fait que les filles ne sont pas n'abandonnent pas l'école, surtout dans le milieu rural. Et on a commencé à avoir beaucoup de résultats positifs parce que ces filles, ces garçons ont développé des compétences exceptionnelles. Donc je suis vraiment ravie à chaque fois de les voir confiants, en train de présenter leurs projets et en train de débattre avec même des directeurs, avec des ingénieurs. Chose que je ne pouvais pas faire à leur âge.
Oui, absolument. C'est ce que disait aussi une invitée à moi dernièrement qui me disait finalement, on se rend compte que pendant les années d'études, eh bien, c'est toutes ces soft skills qu'on n'apprend pas et on est obligé. Et toi aussi, tu le disais au début de l'interview, on nous apprend les maths, on nous apprend tout le reste, mais pas à parler, pas à se tenir, à se comporter, etc. Alors, j'ai l'impression, justement, Leïla, qu'au bout d'un moment, ça ne sera plus suffisant tout ça. Est-ce que je me trompe ?
Bah oui, parce qu'on ne peut pas tout changer en fait. On est une communauté qui grandit, c'est sûr, mais on a une ambition de toucher tous les enfants du Maroc. Pas que le Maroc, on veut aussi aller en Afrique parce que l'Afrique aussi a besoin de tels projets. Parce que, par exemple, pour les compétitions qu'on organise, on n'est que 3 pays qui sont présents, alors que il y a 54 pays africains, d'où en fait notre ambition de supporter aussi les autres pays de l'Afrique francophone. Et du coup, on est en constante en fait recherche en fait de fonds, de partenaires qui croient en les mêmes ambitions et qui veulent voir en fait les compétences marocaines briller d'ici 2030. C'est toujours en fait lourd en fait de porter tout ça en tant qu'association.
Aujourd'hui, c'est un statut d'association que tu as ?
Oui, en fait, on a la double casquette. Donc, j'ai l'entreprise toujours qui est opérationnelle et on a aussi l'association.
Ok. Alors, quand j'ai dit ça ne sera pas suffisant, j'ai l'impression que tu vas aller vers d'autres projets. Là, tu parles d'extension de projets, mais moi, j'ai l'impression que tu vas aller vers d'autres choses. Est-ce que tu as d'autres idées en tête ? Est-ce que tu es en train de devenir une serial entrepreneur ?
En fait, serial entrepreneur, Je ne sais pas. Pour l'instant, en fait, je peux dire que je vis au jour le jour. Mais en fait, moi, vraiment, peut-être que les projets peuvent se diversifier, mais l'objectif pour moi est toujours le même. Parce que j'ai cette volonté, en fait, de faire changer l'éducation telle qu'elle est. Du coup, que ce soit à travers d'autres projets, que ce soit à travers le même projet, mais pour aller en profondeur, je ne sais pas encore.
Justement, ça, c'est des choses qui restent quand même en point d'interrogation, c'est ça?
Exactement, oui.
Alors, une dernière question. Ça fait quoi de travailler tout le temps avec sa sœur?
Je peux dire que c'est bien, c'est très bien même, parce que en fait, je pense qu'il y a personne qui peut te comprendre mieux que ta sœur. Après, on a ce qui est bien, c'est qu'on partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire que à aucun moment il y a des problèmes de fond. C'est vrai que parfois, en fait, on peut se chamailler, ne pas être d'accord sur des idées d'exécution, mais c'est toujours dans le cadre des productive tensions ou les tensions productives, parce que c'est comme ça qu'on peut évoluer, on peut pas être tout le temps d'accord. Mais c'est vraiment un plaisir, parce que on partage, comme j'ai dit, les mêmes valeurs, et c'est l'essentiel, c'est le plus important.
Eh bien, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui, Leila Berchen.
Merci à toi Yasmine, c'était un plaisir d'échanger avec toi et merci encore pour l'invitation.
Eh bien merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.